Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous fêtons aujourd'hui le plus grand mystère de la foi catholique, celui qui soutient en quelque sorte tout l'édifice des dogmes de la foi catholique, le mystère de la Sainte Trinité, un Dieu en trois personnes égales et distinctes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, nous avons un seul Dieu parce que les trois personnes sont consubstantielles, c'est-à-dire qu'elles ont la même substance divine. C'est évident que même si on étudie ce mystère très profondément, il reste un mystère et donc incompréhensible par la raison humaine, puisqu'il dépasse la raison humaine. Et il faut avoir l'humilité en tant que catholique de s'humilier justement sous ce mystère. Et surtout, ne pas le repousser sous prétexte qu'on ne peut pas le comprendre. N'oubliez pas que le mystère de la Sainte Trinité permet les deux autres grands mystères de la foi catholique, c'est-à-dire le mystère de l'Incarnation et le mystère de la Rédemption. Il ne pourrait pas y avoir le mystère de l'Incarnation ni le mystère de la Rédemption s'il n'y avait pas le mystère de la Sainte Trinité pour commencer. C'est parce qu'il y a trois personnes à la Sainte Trinité que la deuxième personne a pu s'incarner dans le mystère de l'Incarnation, en prenant un corps et une âme humaine dans le sein très pur de Sainte Vierge Marie le 25 mars, pour pouvoir mourir le jour du Vendredi Saint dans son humanité, dans sa nature humaine. C'est par la double nature qui existe en notre Seigneur Jésus-Christ, nature humaine et nature divine, il peut y avoir le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Et donc il faut méditer sur cette unité, la puissance et la majesté divine, mais en même temps, dans tout ça, dans la gloire de la Sainte Trinité. Cela reste un mystère. Et il nous faut avoir encore une fois l'humilité de dire au bon Dieu, « Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées parce que vous ne pouvez ni nous tromper, ni vous tromper. » Tous ceux qui ont essayé de supprimer le mystère, de creuser trop dans le mystère, ont fini par dire des hérésies sur le sujet. Alors essayons de nous appuyer un petit peu sur le texte liturgique qu'a choisi la Sainte Église aujourd'hui. Elle part d'un texte de Saint Matthieu, chapitre 28, qui nous rappelle notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous rappelle la Sainte Église, que tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre. Justement parce qu'il est la Sainte Trinité. Et dans la Sainte Trinité, Dieu étant créateur et rédempteur de l'univers, eh bien, donc il a le suprême pouvoir. Quels sont ces pouvoirs de Dieu? Eh bien, ce sont d'abord les trois pouvoirs généraux de magistère, de ministère et de gouvernement. Dieu a le pouvoir de magistère parce qu'il a le pouvoir suprême d'enseignement. Le maître, c'est le magistère, c'est celui qui enseigne. Celui donc qui a l'enseignement. La grande différence qu'il y a entre le pouvoir de magistère de Dieu et le pouvoir de magistère qu'ont toutes les personnes en charge d'âme, par exemple les parents ou les prêtres, c'est que le pouvoir de magistère de Dieu est un pouvoir qu'il tient de lui-même, qui ne tient pas de quelqu'un d'autre. Notre pouvoir de magistère, le pouvoir d'enseignement, nous l'avons reçu. Nous devons transmettre ce que nous avons reçu. Dieu n'a rien reçu puisqu'il est Dieu. Et donc il transmet ce qu'il est. Il n'a pas reçu son transmission de quelqu'un d'autre, la chose à transmettre de quelqu'un d'autre pour la transmettre derrière lui. Il transmet ce qu'il est, le pouvoir de magistère. Puis le pouvoir de ministère, c'est le pouvoir de sanctification. Nous avons donc tous l'obligation morale, sous peine de péché grave, de nous sanctifier en passant par l'unique personne qui puisse nous sanctifier, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ étant l'unique vrai Dieu, en trois personnes, eh bien personne ne peut se sanctifier en dehors du mystère de la Sainte Trinité. Personne ne peut se sanctifier en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc pour cela qu'il ne peut même pas y avoir de valeur de salut dans une fausse religion. Même, ceci est un mystère, même s'il peut y avoir dans certains cas des sacrements valides dans une fausse religion, on ne peut pas se sanctifier habituellement par ces sacrements. Prenez l'exemple, par exemple, de la religion orthodoxe, c'est une fausse religion. Pourtant, il y a une présence réelle dans les églises orthodoxes. Pourtant, prenez l'exemple même du protestantisme. Certains baptêmes protestants peuvent être valides, entre autres ceux de la haute église. Eh bien, l'église anglicane peut être valide, mais en soi, un sacrement ne peut pas, un sacrement d'une fausse église ne peut pas être un moyen de salut en soi. Parce que justement, on est obligé de passer par celui qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Et cette personne qui la voit, la vérité et la vie, ne se rend compte que en notre Seigneur Jésus-Christ, en rien d'autre. Enfin, le bon Dieu a aussi le pouvoir de gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir de guider. C'est lui qui est le pasteur, c'est lui qui indique la direction à suivre. Et encore une fois, personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ ne peut indiquer la bonne direction. Il n'y a qu'un seul pasteur et qu'un seul troupeau, et hors de ce troupeau, il ne peut y avoir de salut. Mais ce ne sont pas là les seuls pouvoirs de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu. Il y a aussi un autre pouvoir, un triple pouvoir encore, le pouvoir de nous obliger en quelque sorte de suivre les lois qu'il a faites, qu'on appelle le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, c'est le pouvoir de faire les lois. Dieu étant créateur, a le droit de nous indiquer le moyen d'arriver à lui. Et quand c'est un petit peu avec une image un peu moderne, quelqu'un qui achète une machine, il y a un mode d'emploi pour cette machine. Et s'il ne veut pas suivre la mode de bande d'emploi de la machine, eh bien il va tout casser. C'est la même chose avec le bon Dieu. Le bon Dieu nous a donné une nature humaine. Cette nature humaine a aussi un mode d'emploi. Il nous a donné une intelligence, par exemple, une volonté. Il nous faut suivre le mode d'emploi que le bon Dieu a mis dans cette intelligence et dans cette volonté. Donc je ne peux pas faire ce que je veux avec mon intelligence ou avec ma volonté. Malheur à celui qui s'estime avoir le droit d'utiliser son intelligence comme il le semble, comme il lui semble. Non, notre intelligence ne nous a pas été donnée avec une totale liberté d'action, mais nous a été donnée avec des garde-fous, en quelque sorte des protections, et nous devons utiliser cette intelligence comme le bon Dieu veut que nous l'utilisions. Donc il y a un pouvoir législatif de notre Seigneur, un pouvoir aussi judiciaire. Notre Seigneur Jésus-Christ a un pouvoir de juger d'après justement ces lois qu'il nous impose, la loi des 10 commandements. Il y a aussi un pouvoir coercitif. Quand on parle de pouvoir coercitif aujourd'hui, les gens modernes commencent tout de suite à pousser des cris. Notre Seigneur a un pouvoir coercitif, ça veut dire quoi? Qu'il a un pouvoir d'obliger les hommes à suivre sa loi. Mais vous savez, je suis libre. Non, nous ne sommes pas libres. Nous sommes libres de choisir les moyens pour aller à lui. Nous ne sommes pas libres de choisir la fin pour laquelle nous avons été créés. Tous les hommes, même les non-catholiques, ont été créés pour un jour posséder Dieu. Et donc Dieu a donné, pour donner une force en quelque sorte à sa volonté de sauver tous les hommes, a mis pour ceux qui refusent de se soumettre à notre Seigneur Jésus-Christ des châtiments terribles, des châtiments de l'enfer. Y a-t-il une coercition plus forte que l'existence de l'enfer ? Et justement, le bon Dieu a voulu l'existence de l'enfer pour en quelque sorte nous obliger à suivre sa volonté. Bien sûr, il vaut mieux suivre la volonté du bon Dieu par amour. Mais si nous ne sommes pas capables de suivre la volonté du bon Dieu par amour, le bon Dieu va nous obliger à suivre sa volonté par crainte. Alors il nous faut justement demander cette grâce au bon Dieu, d'avoir cette soumission de l'intelligence, cette soumission de la volonté à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que hors de l'Église catholique, hors de notre Seigneur Jésus-Christ, hors de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas y avoir de salut. Alors qu'est-ce que nous dit encore l'Évangile d'aujourd'hui? Allez enseigner toutes les nations. Allez enseigner toutes les nations, la terre entière, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant à garder les commandements que je vous ai donnés. Le bon Dieu n'a pas dit à ses disciples, à ses apôtres, allez enseigner toutes les nations et prêchez ce que vous voulez. Non, prêchez ce que vous avez reçu, prêchez l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, le magistère de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le ministère institué par notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous ayons les moyens d'atteindre justement cette fin pour laquelle nous avons été créés, à savoir la béatitude éternelle. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des siècles. Il y a cette phrase très importante dans l'Évangile d'aujourd'hui, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. » Et c'est une phrase qui est adressée d'abord à Saint-Pierre, le premier pape. Donc notre Seigneur Jésus-Christ nous promet en quelque sorte qu'il y aura pour chacun d'entre nous une protection spéciale du bon Dieu qui est avec nous tous les jours. Il n'est pas avec nous de temps en temps, il est avec nous constamment, parce qu'il s'occupe de sa création. Le bon Dieu ne se contente pas de nous créer, et en quelque sorte de nous lancer dans le monde. Non, il s'engage en quelque sorte, non seulement à nous créer, puisque nous avons été créés pour lui, à nous donner les moyens surnaturels pour que nous puissions atteindre notre Seigneur Jésus-Christ un jour au ciel. Donc il ne se contente pas de nous donner l'être, il nous donne aussi le maintien dans l'être. Si notre Seigneur Jésus-Christ, si Dieu arrêtait de penser à nous ne serait-ce qu'un quart de seconde, nous disparaîtrions immédiatement dans le néant le plus complet. Et à cause justement de cet enseignement de l'Église catholique, justement sur la Sainte Trinité, sur la toute-puissance de Dieu, sur les âmes, puisqu'il est créateur et puisqu'il est rédempteur, il est créateur en tant que, il est créateur en tant que Dieu, et il est rédempteur parce qu'il est mort justement sur la croix pour nous. Eh bien, il y a des obligations pour chacun d'entre nous. Je voudrais rattraper un petit peu deux erreurs qu'on entend beaucoup trop souvent, même chez les gens de la tradition. À cause de cette Sainte Trinité, il faut bien comprendre qu'il n'y a qu'une seule véritable religion. Je vous l'ai dit. Et donc, on entend trop souvent, même parfois dans la tradition, des gens nous parler des trois grandes religions monothéistes. Il n'y a pas trois grandes religions monothéistes, il n'y en a qu'une. L'histoire nous dit, mais il y a trois grandes religions monothéistes, le christianisme, l'islam et la religion juive. C'est faux. Il n'y a qu'une seule religion monothéiste, une seule religion qui adore l'unique vrai Dieu. Est-ce que le Dieu des musulmans est le vrai Dieu? Bien sûr que non, puisqu'il n'y a pas la Sainte Trinité chez les musulmans. Les musulmans donc rejettent deux personnes sur trois, ça fait beaucoup. Rejetant deux personnes sur trois, le Dieu qu'adorent les musulmans n'est donc pas le vrai Dieu. Et le Dieu des Juifs, est-ce que le Dieu des Juifs est le vrai Dieu? Le Dieu des Juifs de l'Ancien Testament était le vrai Dieu. Mais avec l'arrivée du Nouveau Testament, ils ont refusé ce vrai Dieu et attendent toujours un Christ qui est déjà venu. Donc dans la pratique, la religion juive rejette catégoriquement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix dans son humanité. Rejetant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la croix, venu pour mourir sur la croix à Jérusalem il y a 2000 ans, évidemment, la religion juive rejette Dieu lui-même. Donc on ne peut pas dire qu'il y a trois grandes religions monothéistes, il n'y a qu'une seule religion monothéiste. Et il faut aussi s'habituer à ne pas parler du christianisme en général, comme une espèce de grand sac dans lequel on met un peu de tout. Souvent on dit que les religions protestantes sont des religions chrétiennes. Attention, il n'y a qu'une seule religion chrétienne dans le sens qu'il n'y a qu'une seule véritable religion. La véritable religion, c'est la religion catholique. Et même avec des religions qui peuvent avoir certaines choses de communes, de points de foi communs avec la foi catholique, il manque l'essentiel parce qu'il manque ce rattachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette même ligne d'idées, il y a une deuxième erreur qu'on entend aussi beaucoup trop souvent. Par exemple, on entend souvent ça dans les conférences qui sont données par des catholiques qu'on trouve par exemple souvent sur Internet, qui parlent d'une civilisation judéo-chrétienne. Et ça aussi, c'est totalement stupide. Il ne peut pas y avoir de civilisation judéo-chrétienne. Et une civilisation juive ou une civilisation chrétienne, il n'y a pas de la foi. La civilisation chrétienne est une civilisation qui est centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ. La civilisation juive est une civilisation qui est centrée sur le refus de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il ne peut pas y avoir de civilisation judéo-chrétienne. Je ne sais pas qui a inventé cette expression. C'est une expression non seulement malheureuse, mais c'est une expression qui est littéralement hérétique. Parce qu'elle laisse croire que le Dieu des Juifs actuels est le même Dieu que le Dieu des chrétiens. Ce n'est pas possible. Et comme il faut faire, mes bien chers frères, très attention, surtout dans ce domaine, de se soumettre à ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Non seulement de se soumettre à ce que l'Église catholique a toujours enseigné, mais aussi de se soumettre à l'expression de ces grandes vérités. L'Église a voulu utiliser certains termes théologiques très précis qu'il faut continuer de conserver. Par exemple, le concile de Trente au XVIe siècle a utilisé, a inventé littéralement le mot de transsubstantiation pour désigner le miracle qui se passe pendant la Sainte Messe, du changement de la substance du pain en la substance de notre Seigneur Jésus-Christ, de son corps, et la substance du vin changée en la substance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des mots qu'il faut conserver soigneusement. et ne pas tomber dans le panneau des modernistes qui disent « Oh, mais ce sont des mots bien trop compliqués, alors on va changer ces mots-là. » Non. Parce qu'en changeant les mots, on change ce qui est sous les mots, on change ce qui est désigné par ces mots. Alors demandons, eh bien, chers frères, demandons justement pendant ce fête de la Sainte Trinité une grande docilité à l'esprit d'Église, pensant comme l'Église catholique a toujours pensé. Souvent, des gens qui connaissent mal la foi catholique me posent ces questions totalement stupides, mais qu'on entend malheureusement beaucoup trop souvent, en disant, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la Sainte Eucharistie ou qu'est-ce que vous pensez de la Sainte Trinité? J'en pense rien du tout. Je pense ce que l'Église a toujours pensé sur la Sainte Trinité et sur l'Incarnation. Il ne peut pas y avoir, il n'y a pas, il ne doit pas y avoir dans notre esprit, dans notre intelligence, d'opinion personnelle sur la Sainte Trinité ou sur la Sainte Incarnation ou sur la Sainte Rédemption. Il nous faut nous soumettre à ce que l'Église a toujours pensé et penser comme l'Église a toujours pensé. S'il y a une chose que l'Église déteste, c'est l'esprit de nouveauté. Loin de nous l'esprit de nouveauté. C'est Saint Pédis qui disait cela. Loin de nous l'esprit de nouveauté, l'Église catholique n'a en aucun cas besoin de s'adapter au monde moderne. C'est le monde moderne qui doit s'adapter à l'Église catholique, et si le monde moderne refuse de s'adapter à l'Église catholique, le monde moderne va périr. C'est aussi simple que cela. C'est pour cela qu'un catéchisme ne change pas. L'enseignement de l'Église ne change pas. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit, d'adapter quoi que ce soit. Et de sorte, ne croyons pas à toutes ces bêtises qui sont dites sur ce sujet par beaucoup de gens qui disent « Mais le langage des gens du XXIe siècle a changé, n'est plus le langage des gens anciens. » C'est précisément pour cela que la langue de l'Église, c'est le latin. Parce que le latin étant une langue morte, est une langue qui ne change plus. La signification des mots a le même sens pour nous aujourd'hui quand on lit un texte en latin et pour saint Augustin qui écrivait un texte en latin il y a 17 siècles ou 16 siècles. Oui, mes chers frères, ce qu'il nous faut comprendre. Donc il faut demander au bon Dieu cet esprit de docilité. L'esprit moderne est un esprit d'indocilité, de refus de docilité, d'insoumission. Il faut pouvoir dire au bon Dieu, de toute la force de notre âme, « Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Mon Dieu, aidez-moi à penser tel que vous voulez que je pense, à penser comme l'Église catholique a toujours pensé. » L'Église catholique a été et sera toujours. Pourquoi ? Parce que l'Église catholique est divine. Donc il y a besoin de changer quoi que ce soit dans l'Église. C'est pour cela que les grands catéchistes, par exemple, je pense au catéchisme de Saint Pédis, écrit par Saint Pédis en 1910, ou le catéchisme du Concile de Trente, écrit en 1570, eh bien, sont des catéchistes qui seront toujours aussi valables jusqu'à la dernière virgule, même dans 2 ou 3 000 ans, si la Terre est encore ici-bas, d'ici là. Donc il faut demander, mes bien chers frères, cet esprit de soumission par la Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie n'a pas tout compris. Elle n'avait pas, contrairement à ce que vous disent aussi beaucoup de gens, elle n'avait pas la science infuse complète. Elle comprenait plus de choses que nous, bien sûr, mais elle ne comprenait pas tout. On le voit très bien dans le Saint-Évangile, parce que, par exemple, après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il est dit qu'elle contemplait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Et lorsque l'ange vient la voir pour lui demander de devenir la mère du bon Dieu, d'abord, elle ne comprend pas, elle dit comment cela pourrait-il être possible puisque je ne connais point d'homme, c'est-à-dire puisque je suis sous un vœu de chasteté. Donc elle n'est pas la science infuse. Mais la très sainte Vierge Marie, bien qu'en n'ayant pas la science infuse, savait qu'elle était mère de Dieu. Et donc elle va se soumettre tout simplement à la volonté et à l'intelligence de son divin fils. Et c'est parce qu'elle s'est parfaitement soumise à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ qu'elle est devenue si grande. La grandeur d'un individu dépend justement du degré de soumission à l'autorité supérieure. Et puisque l'autorité supérieure pour nous c'est l'autorité divine, c'est dans la mesure où j'accepte de me soumettre à l'autorité divine que j'arriverai à devenir, à prendre le degré de grandeur que le bon Dieu veut que j'atteigne justement dans mon âme en fonction des grâces qu'il m'a données et qu'il me donnera chaque jour de ma vie. Alors demandons, eh bien, chers frères, demandons avec beaucoup d'humilité. Demandons toutes ces grâces à notre Seigneur. Demandons cette grâce, surtout de ne jamais avoir cet esprit de curiosité, cet esprit de cet amour des nouveautés qui a toujours été condamné par l'Église. Saint Pédis, dans son encyclique Pachendi, utilise deux mots de façon synonyme, soit l'amour des nouveautés, soit ce désir de tout connaître. Et pour lui, c'est une seule et même chose. Donc cette curiosité, cet amour de nouveauté, pour lui, est la même chose. Et donc il ne faut pas avoir cette curiosité. Il faut avoir l'amour de la vérité, mais pas d'esprit de curiosité en matière de dogmatique. Pourquoi ? Parce que la dogmatique de l'Église reste et restera toujours, ne sera jamais changée. Demandons cet esprit d'humilité. Tout ça vient de l'humilité. N'oublions pas que la racine de toute la révolution, c'est l'orgueil. Donc la racine de la foi catholique, c'est l'humilité. Notre Seigneur Jésus-Christ qui s'incarne, la vertu d'humilité, qui est magnifiquement justement manifestée par cette incarnation, le Fils de Dieu, Dieu créateur du ciel et de la terre, qui accepte de devenir un enfant tout petit dans le sein de sa mère, bloqué en quelque sorte par les paroles du sein de sa mère, alors qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Et bien justement, il nous apprend l'humilité. Et c'est dans la mesure où nous aurons cette vertu d'humilité, qu'avec la grâce du bon Dieu, nous pourrons aller au ciel. Alors demandons cette grâce de l'humilité, justement par l'intermédiaire de la reine de l'humilité. S'il y a une vertu que notre Sainte Vierge Marie a pratiquée de façon extraordinaire, elle a toutes pratiquées, mais peut-être une des plus visibles chez elle, cette vertu d'humilité. Qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Et même quand elle a vu notre Seigneur Jésus-Christ souffrir le martyr au vendredi saint, quand elle voyait son fils mourir exsangue sur la croix, pas une seule seconde notre Sainte Vierge Marie n'a eu un doute, précisément parce qu'elle avait l'esprit d'humilité. Les apôtres qui n'avaient pas encore suffisamment cet esprit d'humilité se sont révoltés contre la passion. Ils ont tous perdu la foi à ce moment-là. Il a fallu que le bon Dieu leur donne, après sa résurrection, des grâces tout à fait spéciales pour que Saint-Pierre, par exemple, et Saint-Jean, en voyant le tombeau vide, finalement, voient et croient. Ils avaient perdu la foi. Alors demandons cette grâce de ne jamais perdre la foi, de nous protéger notre foi par une grande dévotion envers celle qui n'a jamais perdu la foi, la très sainte Vierge Marie. En du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.